Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Le chanteur Jadju sera en exclusivité ici pour parler de la sortie aujourd'hui de son nouvel album, ça s'appelle Poison. Et puis dans les indispensables, 3 BD avec le comeback du groom le plus connu de France. Je vous dis pas son nom, mais ça commence par un S et ça finit par roux. Et puis un livre sur plus de 40 affaires politiques ou judiciaires qui ont marqué l'histoire. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture, le dernier de la semaine avec vous, mais vous revenez lundi évidemment. Et ce journal J'espère. Débute avec, on va prendre la direction de Nice, pardon pour cette phrase.
Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions qui s'en vont.
Et nous allons plus précisément au parc Phénix qui se prépare activement à accueillir l'exposition Nice, Baie des Lumières, une exposition franco-chinoise. Ce sera à partir du 29 novembre. Alors, tenez-vous bien, sont en train d'être mis en place 550 lanternes pour 50 scènes mythiques de la géographie ou de la culture chinoise. 12 000 ampoules à LED pour éclairer toute l'exposition. Il y a 80 ouvriers franco-chinois qui sont en train de tout préparer. Alors c'est l'équipe chinoise qui fera les dernières retouches peinture, ils sont plus doués. Le travail d'éclairage...
Ils vont être contents les Français qui nous écoutent. Mais
attendez,
à Nice.
Le travail d'éclairage sera fait par les Français car ils connaissent les normes européennes. Donc concrètement, vous allez pouvoir admirer des statues lanternes les plus impressionnantes comme la Grande Muraille de Chine de 18 mètres de haut ou encore les deux dragons de 50 mètres chacun. Un travail très important qui a commencé en Chine il y a plusieurs mois. Tous les tableaux et les lanternes ont été imaginés. Il y a fallu 60 jours pour que ça arrive en France. 300 000 visiteurs sont attendus. Il y aura aussi du kung-fu, de la nourriture chinoise et des danses traditionnelles.
Merci beaucoup. On va parler pour cette musique, ça m'a fait un grand plaisir. On va parler prix littéraires et les lauréats des différents prix des lycéens dévoilés.
Karine Schuil remporte le Goncourt des lycéens pour son roman Les choses humaines. Avant-hier, elle avait reçu le prix de l'Interallié. Dans ce livre, elle donne la parole à des femmes victimes d'agressions sexuelles. Du côté du prix Renaudot 2019 des lycéens, il revient à Victoria Mas pour son premier roman Le bal des folles.
Malgré la polémique, J'accuse, le film de Roman Polanski, remplit les salles de cinéma.
C'est même le troisième meilleur démarrage de l'année pour un film français. Alors le film est sorti mercredi. Dès le premier jour, il y avait près de 17 000 spectateurs, ce qui est un très bon démarrage. Malgré les nouvelles accusations de viol à l'encontre du réalisateur Roman Polanski et l'appel au boycott de la part d'associations féministes et de personnalités, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, a annoncé qu'elle n'irait pas voir le film. Franck Riester, le ministre de la Culture, a quant à lui déclaré « une œuvre si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur. Le talent n'est pas une circonstance atténuante, le génie pas une garantie d'impunité. »
On va passer à un tout autre registre maintenant, on va passer à la musique avec un album de Noël. Tiens, ça faisait longtemps.
Et oui, et il est signé Anaïs Delva. Vous vous souvenez d'Anaïs Delva ?
Redites-moi.
Alors vous savez, c'était aussi notre Reine des Neiges,
ah, ça, oui.
Celle qui chantait Libérée, Délivrée, la chanson préférée de Céline Dacosta.
C'est la seule qui arrive à chanter vraiment parfaitement.
Exactement. Alors ce n'est pas elle qui chantera sur la bande originale de La Reine des Neiges 2, puisqu'Anaïs Delva sort aujourd'hui un album de Noël intitulé « Quand j'entends chanter Noël ». Elle y reprend des chansons traditionnelles en français et en anglais. Bon, elle ouvre pratiquement la saison des albums de Noël, on peut le dire. Alors Anaïs Delva qui ce week-end inaugure plusieurs illuminations de Noël, notamment au centre commercial Carré Sénart et surtout le 22 novembre à Strasbourg.
Madonna attaquée en justice.
Et c'est par un fan qui est très, très, très agacé par les retards de la chanteuse. Lors d'un concert à Miami, Madonna a fait attendre son public plus de 2 heures. Pour Nate Hollander, fidèle auditeur de l'artiste, c'était trop. Lui qui avait acheté son billet plus de 1 000 $, il s'est vu refuser le remboursement des tickets par Live Nation. Il a donc décidé de porter plainte. Mais on peut dire quand même que la ponctualité n'est pas le fort de Madonna. Elle a démarré ce jeudi à 00:30. un concert prévu au César Palace de Las Vegas, qui lui était prévu à 22h30, hué par les spectateurs. La chanteuse a rétorqué « Voici quelque chose que vous devez tous comprendre, une reine n'est jamais en retard. »
Mais le type a vraiment porté plainte.
Bien sûr.
Il aurait dû l'attaquer en France, comme ça il aurait vu les retards de la justice. Et puis on termine ce journal par une autre star, qui elle est à l'heure, c'est Céline Dion.
À l'heure pour la sortie de son nouvel album, et oui, qu'il sort aujourd'hui, intitulé Courage, son premier album anglophone en 6 ans. Céline Dion qui est également en tournée avec sa tournée mondiale, le Courage Tour, un Courage Tour qui passera aussi en France. On le rappelle, du 26 juin au 4 juillet 2020 à Paris, la Défense Arena, et le 16 juillet lors du Festival des Vieilles Charrues. Les places sont parties, comme on le rappelle, en 2 heures pour les concerts à Paris et en 9 minutes pour le concert des Vieilles Charrues. Ouais. Des places se revendent à 6000 euros, mais surtout, sachez qu'une Tombola est organisée pour le Téléthon de Carré et permettra à 5 personnes d'assister au concert de Céline aux Vieilles Charrues le 16 juillet prochain. Le ticket coûte 2 euros.
Ah,
donc vous avez
peut-être
une chance. En attendant, Philippe, on écoute tout de suite un titre de ce nouvel album qui s'appelle Imperfection.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et on accueille Dadju sur Europe 1, Philippe.
Bonjour Dadju.
Bonjour.
Merci d'être ici avec nous. Avant de vous situer par des mots, par des notes, je vous situer par des chiffres. Vous êtes la troisième plus grosse vente d'albums français en 2018, 700 000 ventes dans le monde entier, 3 millions d'abonnés sur Instagram, et vos titres, vos sons ont généré 1 milliard de vues sur YouTube. Et si vous voulez du son, en voici.
Je veux qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui dis ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley.
C'est le single Bob Marley, combien d'exemplaires vendus?
On a dépassé le single Diamant.
Voilà. Bob Marley. Vas-y, bim, prends ça. C'est extrait de votre album Gentleman 2.0, Le Devoir, le journal de Montréal qui n'est pas suspect de copinage, dit de cet album probablement le meilleur disque R&B jamais offert par un artiste masculin en Europe. Et là, vous avez un album qui sort aujourd'hui, il s'appelle Poison, on va en parler, mais d'abord votre actu immédiate, à la minute près, il est 10h14 et 17 secondes. Depuis 10h, c'est-à-dire depuis quelques minutes, la billetterie de votre concert au Parc des Princes est ouverte.
Ouais.
Ce sera le 7 juin. Juste pour situer avant vous, il y a seul Johnny Hallyday a réussi à le remplir. Vous vous souvenez comment vous avez appris que vous alliez jouer au Parc des Princes?
Ouais, ça faisait un moment qu'on était sur le dossier. On nous disait que c'était très compliqué, limite impossible.
Ouais.
Et quand j'étais au Stade de France et que j'étais à 2 minutes de monter
sur scène
pour la première partie de Gims, on vient me voir, ma boîte de production vient me voir en me disant voilà, Dadju, c'est bon. On a le Parc des Princes, tu peux chanter tranquille. 2 minutes avant que je monte au Stade de France.
Dis donc, Parc des Princes, Stade de France, pas mal. Cet album Poison, musicalement, vous êtes parti dans quelle direction?
Avec le Gentleman 2.0, il a beaucoup prôné la positivité de l'amour avec des sons comme Reine, par exemple. Et dans cet album Poison, j'ai voulu montrer l'envers du décor. J'ai vraiment voulu montrer un angle de vue différent, c'est-à-dire que
c'est plus sombre.
Voilà, exactement. L'amour peut être sombre parfois, et c'est je voulais vraiment l'expliquer en détail.
Alors on va entendre le son, on peut pas le qualifier, vous récusez le terme R&B, vous avez raison, faut toujours refuser les étiquettes. Alors moi j'ai lu que vous faisiez du hip-hop tempéré, du swing africain, de l'ambiance folk, de la rumba zaïroise, du reggae, j'en passe. On va entendre quelques secondes du titre, toi d'abord, et on en parle.
Je me prends la tête à faire des sous tous les jours, mais j'ai oublié que tu m'as donné ton amour. En retour, j'étais occupé. Est-ce que l'argent m'a rendu fou? Ce qui était clair pour moi est devenu flou. Je me prends la tête à faire des sous tous les jours.
Là, vous posez une bonne question. Est-ce que l'argent m'a rendu fou?
Ouais.
Très bonne question, je vous la pose. Est-ce que l'argent vous a rendu fou?
Non, l'argent m'a pas rendu fou. Je pense avoir la tête sur les épaules encore et être encore concentré, mais c'est vrai que dans ce son, je parle plus du fait d'être tellement concentré sur le travail et sur le fait de mettre à l'abri tous mes proches,
ouais,
que j'en oublie parfois certains moments qui font qu'il y a des moments qu'on ne rattrape pas.
Alors vous racontez aussi vos difficultés conjugales, normalement on ne raconte pas ça dans les musiques urbaines, etc., avec votre femme, votre petite fille. tout ça se télescope avec un succès météorique, je sais pas comment on dit, météorique, je ne sais plus. La famille tient toujours.
Ouais, la famille tient toujours. La famille est là. J'ai pas divorcé, contrairement à ce qu'il y a plein de gens qui pensent que j'ai sorti cet album Poison. Et...
Ben oui, vous le racontez. Donc il y a des histoires d'infidélité, il y a plein de choses.
Et que j'ai divorcé, mais non, j'ai pas divorcé.
Et puis à la chanson Papa, vous dites qu'il y a plus rien à manger. Tu nous as laissé tomber. C'est une histoire vraie.
Ouais, c'est une des rares histoires qui me concerne vraiment, où j'ai vraiment écrit ce texte comme si j'étais un enfant de 10 ans en fait, qui en voulait à son père, qui comprenait pas pourquoi son père était parti et qu'il nous avait laissé derrière. Aujourd'hui, j'ai pas de problème avec mon père.
Ouais.
Je m'entends très bien avec lui, mais c'est vrai que.
Mais quand même, ce que vous racontez, vous l'aviez jamais raconté auparavant.
Non, jamais.
Il est parti, vous étiez en cinquième, votre maman enchaînait les petits boulots, elle était en retard de loyer, vous avez été expulsé, et ce que vous n'avez jamais raconté, vous avez vécu pendant un an et demi à la rue.
Ouais, j'étais SDF en fait. Je dormais un coup, j'étais à l'hôtel, un coup j'étais dehors, un coup j'étais au foyer.
Vous étiez combien ? Il y avait votre maman et vous, et combien ?
Il y avait ma maman, moi, mon petit frère, on était un peu éparpillés parce qu'on est une grande famille. On est 14 frères et sœurs.
Ouais.
Mais on était tous un peu éparpillés.
J'aimerais qu'on entende juste un son. À un moment donné, vous dites « T'es où, papa ?»
Ouais.
Est-ce que c'est un hommage à Stromae qui chantait « Papa, où t'es ?»
Je savais qu'on allait me faire cette comparaison.
Vous savez quoi ? Vous allez avoir du mal à dire non juste après ça. Oh, papa, t'es où, papa ? Donc la comparaison,
c'est pas vraiment un hommage à Stromae, mais je savais que le refrain lui ressemblait beaucoup, et au final l'histoire se ressemble aussi beaucoup. J'aurais pu le changer, on m'a vraiment dit de le changer pour pas avoir cette comparaison, mais c'est comme ça que je le ressentais, donc j'avais pas envie de changer.
Normalement, j'ai pas à donner mon avis, mais moi je trouve ça très beau. Vous avez bien fait de pas changer. Vous restez avec nous.
Dadjo est notre invité ce matin. Son deuxième album Poison sort aujourd'hui. On en parle évidemment dans Culture Média, mais on va aussi parler de vous, Dadjo. Qui êtes-vous ? On va tout savoir de vous grâce à Hélène Manarino, qui dans un instant sur Europe 1 va dresser votre portrait inattendu.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Dadjou, vous connaissez Hélène Manarino ?
Bien sûr, voilà. On s'est déjà vu.
Vous êtes déjà vu, mais vous allez voir, vous n'avez pas entendu ce que qu'elle va vous dire maintenant. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Dadjou.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne sait pas encore de vous. Vous aimez énormément tout savoir des gens, on va tout savoir de vous. Ce matin, votre vie a été rythmée, et elle est toujours, par les super-héros, ceux que vous avez admirés, ceux que vous avez rencontrés, à tel point que même vous pouvez être un super-héros, Dadjou. Et si on commençait par se téléporter dans le passé. Et ça tombe bien, puisque petit, vous étiez fan de Dragon Ball Z, à tel point que vous étiez persuadé que vous aviez un pouvoir du dessin animé, celui de la téléportation.
C'est vrai.
Alors vous faisiez croire à votre petit frère que vous alliez partir, il pleurait en vous disant « Non, ne pars pas sans moi, s'il te plaît !» Alors, super héros, super fort, mais vous vous extasiez aussi devant ça. Les Pokémon. Alors, il y avait un rituel très simple, mettre la cassette des Pokémon tous les deux jours pour juste entendre le générique et la chanter toute la journée. Et ça, Dadjou, c'était super cool. Voilà. Il y a des dossiers. Hein.
Ouais.
Évidemment, des personnes réelles vous ont donné envie d'avoir des super pouvoirs, notamment l'artiste que vous chantiez toujours sous la douche. Econ, évidemment. Alors, on peut évoquer aussi Denzel Washington, cet acteur qui vous fait rêver. Alors, il y a ceux que vous avez rencontrés, qui se sont placés comme véritables super-héros dans votre vie. Ceux vraiment qui vous ont bouleversé. Si je vous dis, Madame Vieville.
Ouais. Elle aussi, c'est une super-héroïne. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand on a été expulsé, justement.
Ouais.
C'était votre CPE.
Et ouais, c'était la CPE de mon collège. Et elle a fait le nécessaire pour qu'on puisse retrouver un appartement. Ça veut dire que comme ma mère n'avait pas les papiers, quand on allait à la mairie, on était un peu négligé. Ça veut dire que ça nous mettait un peu sur le côté. Et elle a utilisé, elle a dit, moi, Elle a dit clairement, moi, je vais venir, moi, je suis blanche, en fait. Et je vais venir et je vais taper du poing là-bas. Elle faisait des petits, des collectes à l'école pour que chacun donne 5 euros, 10 euros pour qu'on puisse manger parce qu'on n'avait plus d'argent. Et au final, on a trouvé un appartement grâce à elle. Donc, elle, je lui dois tout.
Redites son nom.
Madame Viéville.
Madame Viéville. Elle a marqué toute votre vie. Puis surtout, donc il y en a d'autres. Il y a 2-3 ans, vous avez rencontré un super joueur de NBA devant lequel vous ne vouliez absolument pas perdre le pouvoir. C'est Serge Ibaka. Il vous donne rendez-vous dans un hôtel avant la sortie de votre premier album. Vous y allez avec votre Clio. Désolé, mais pourri, pare-choc cassé, rétro aussi, carrosserie abîmée.
À la Clio,
et
il est
quand vous arrivez devant cet hôtel, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des Porsches. Alors vous faites demi-tour et vous allez vous garer à 200 mètres pour venir à pied. Évidemment, le rendez-vous se fait et là, ce joueur de basket vous dit « On va en boîte, mais les gars, je monte avec vous en voiture. » Crise de panique, vous avez dû donner cette excuse. Ah bah non, on est venu à pied, évidemment. Alors super héros d'avoir tenu d'Adjou. Justement pour vous mettre pleinement.
Il est mort de rire.
Qui t'a dit ça?
Mais je peux pas vous dire. Pour vous mettre pleinement dans la peau d'un super héros, vous avez des ingrédients. Vous ne buvez que de l'Oasis. Vous enchaînez le soir les bols de lait devant les mangas. D'ailleurs, vous êtes obligé de regarder quelque chose quand vous mangez.
Ouais.
Votre régime alimentaire, brioche au Nutella, ou plutôt Nutella à la brioche. Non mais vraiment.
C'est régime.
Vous en mettez partout, dehors, dedans, ou alors le plat typique de votre maman au manioc, le pandou. Pour vous entraîner, vous avez fait du judo, du foot, mais c'était surtout la musique. Votre premier nom d'artiste, Dizzy. Vous bossiez dans votre chambre avec ordinateur, dictaphone, petit micro et Econ toujours à fond tous les jours, très fort. Un point sensible, les chats. Vous en avez peur, vous détestez les chats d'Adjou, comment c'est possible?
J'ai trop peur des chats, j'ai vu une vidéo où un chat il griffe la carotide de quelqu'un, depuis je suis traumatisé.
Mais vous êtes gentil, surtout votre surnom, Monsieur Miel. Cela vient d'un fan qui vous a dit un jour, votre musique c'est comme du miel. Alors depuis, tout est miel dans votre vie. Bon, parfois vous avez manqué un peu de pouvoir quand votre maman, par exemple, vous donne de l'argent pour acheter vos fournitures scolaires au lycée. Vous l'utilisez pour autre chose, des courses avec vos amis. Et quand vous rentrez, elle vous dit... Mais où sont tes fournitures scolaires? Vous avez donc inventé cette excuse. Le vigile du supermarché n'a pas voulu me laisser rentrer. Mais votre maman, elle est plus forte que vous. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans le supermarché et elle est allée demander au vigile si c'était vrai. Et c'était complètement faux.
Oh non. En fait, t'as appelé ma mère. En fait. Ouais.
Le lendemain, pas de fournitures scolaires pour le lycée. Mais s'il fallait vous attribuer un super pouvoir, c'est celui du sens de la famille. Cette famille d'Adjou avec laquelle vous avez toujours pris le temps de gâter, extrêmement présent. Vous êtes très ému quand ils accomplissent des choses, très ému lors du premier concert de votre frère Gims, très ému lors de la sortie du manga de votre frère Darcy. Une famille que vous faites rire, surtout quand vous imitez l'accent de la voisine apparemment. Un grand frère protecteur, et ce n'est pas pour rien que votre maman et que la famille vous appellent papa. Papa parce que vous avez aussi le même nom que votre grand-père. Mais d'ailleurs, d'Adjou, si votre super-héros finalement était une super-héroïne? Une maman qui vous a toujours répété « Fais attention aux mauvaises fréquentations, travaille bien à l'école, ne gaspille rien ». Une maman à qui vous avez demandé un jour de l'argent au collège et qui vous a répondu « Non d'Adjou, je mets de côté, je ne peux pas t'en donner, je ne veux pas retourner dans la galère, je ne veux pas retourner dans la rue ». Et vous lui avez répondu cette phrase qui l'a marquée à tout jamais, dont elle parle encore maintenant « Ton futur, ta retraite, c'est moi ». Oublie les soucis. Et à l'époque, vous n'étiez pas chanteur, vous aviez ce but de vous battre pour elle. Une maman qui aujourd'hui vous dit tout le temps avant de monter sur scène, c'est toi le meilleur, vas-y fonce. Alors d'Adjou, vous avez foncé, vous continuez à le faire, on ne voudrait pas que ça s'arrête, alors on vous a rapporté votre potion magique, la pomme pote, à qui peut vous élever.
Hélène a vraiment apporté une pomme pote.
Merci.
Cadeau.
Merci.
Je t'en prie.
Commentaire. Ouais, tout est vrai.
Ouais, non, franchement, tout est vrai, jusqu'à la pompote. Hein. Ouais. À chaque fois que je monte sur scène ou que je descends de scène, je prends une pompote. Et c'est vrai, tout est vrai. Merci beaucoup pour ce portrait, il est magnifique.
Merci beaucoup Hélène, et je précise que Pompote n'est pas un annonceur.
Non, Nadjo est l'invité de Culture Média. Avec lui dans un instant, on fait le tour de nos indispensables du jour sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
On fait le tour de nos indispensables du jour avec Nicolas Caro et Mathieu Charrier dans un instant, avec notre invité Dadju qui sort aujourd'hui son deuxième album Poison et qui annonce également son concert événement au Parc des Princes le 7 juin dont la billetterie a ouvert ce matin, Philippe.
Il est 10h32 et 55 secondes et on peut vous donner les chiffres. En 32 minutes, il y a déjà plus de 5000 places qui ont été vendues. Donc vous n'allez pas tarder à être complet pour le concert du Parc des Princes.
C'est incroyable.
C'est incroyable, non ?
Ouais, c'est incroyable ça.
De le faire en temps réel. Et puis alors, il faut quand même dire, autre actu, vous serez vendredi 29 à Bercy.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on appelle maintenant l'Accor Hotel Arena. Vous avez vu ce qui est arrivé avant-hier soir au concert de Jul ?
C'est vraiment triste.
Je vais le dire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a des supporters du PSG qui sont venus et qui ont forcé les grilles, les portes, parce que Jul vient de Marseille.
Ouais.
En disant, rentre chez toi. Ça...
C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Sachant, je connais l'artiste aussi, Jul. C'est un des artistes vraiment les plus gentils que je connaisse. Et il fait de la musique. Là, c'est pas du foot. Il vient, il fait de la musique. Et s'il a rempli sa salle, c'est que à Paris, on l'aime aussi. Donc les gens qui ont fait ça, ils ont pas d'excuses. Franchement, c'est n'importe quoi.
Comment vous êtes accueillis quand vous êtes à Marseille?
C'est ça. En fait, je suis super bien accueilli quand je vais à Marseille. Et je commence ma tournée 2020 justement par Marseille.
Ouais.
Et il y a toujours une très bonne ambiance. C'est un des meilleurs publics. Que j'ai pu avoir, et c'est pour ça que je suis un peu déçu, parce que c'est Paris, c'est nous. Quand quelqu'un merde, c'est nous, et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on se l'approprie aussi. Donc c'est notre image qui en prend un coup, en fait.
Alors je vais le dire, Marseille, ça sera au Dôme le 7 mars, et puisque vous en parlez, la tournée 2020, vous serez d'Adjou à Dijon le 11 mars, Nantes le 12, Rennes le 13, Tours le 14, Toulouse le 17, Bordeaux le 18, Caen le 19, Lille le 25, Bruxelles le 26, Épernay le 27, Rouen le 28, encore 3 dates en avril, Luxembourg le 1er avril, Nancy le 2 et Montpellier le 4.
Ouais.
La personne qu'on a des rires, et je suis ravi qu'elle soit là, c'est Mathieu Charrier. Et vous venez de parler
soirs,
de bande dessinée,
oui.
Avec des conseils de lecture, et vous commencez par prendre la direction de l'Italie,
oui,
Mathieu.
Oui, sous la chaleur du soleil italien, ça fait du bien cette journée pluvieuse avec Senso. Notre héros, c'est Germano, un agriculteur bio un peu fauché, qui décide de prendre le train pour aller voir l'exposition de sa fille. Problème, en raison de cette chaleur suffocante, son train a 6 heures de retard. Et lorsqu'il arrive à l'hôtel, après avoir marché de longues minutes en plein cagnard, le réceptionniste lui apprend que sa chambre a été réattribuée. Comme il ne s'est pas présenté et qu'il n'a pas prévenu, qu'en plus, le patron de cet hôtel, une vieille et belle bâtisse un peu décrépite, se marie, qu'il a donc beaucoup d'invités à y loger. Mais Germano peut, s'il le veut, s'installer sur une banquette dans le hall. Alors il n'a pas vraiment le choix, notre pauvre Germano. Et il va alors rencontrer une dame, un peu perdue elle aussi. Ensemble, ils vont passer la nuit à errer dans le parc de cet hôtel. Et nous, avec eux, écoutez Alfred.
On n'en saisit effectivement pas vraiment ni les contours, ni les frontières. Et puis on a même l'impression qu'il grandit, qu'il évolue à mesure que la nuit avance. C'était aussi cette envie-là de raconter cette sensation qu'on peut avoir quand la nuit avançant et puis l'ivresse et les émotions nous accompagnant, on n'a plus une perception précise de ce qui nous entoure et ça devient un terrain d'exploration et d'émotion. Avec dans un coin de tête un ton proche du cinéma italien des années 50, 60, 70 que j'aime passionnément.
Et on subit nous aussi la distorsion du temps, la chaleur qui pèse sur chaque élément du décor. Cette rencontre est belle, onirique, ça s'appelle donc Senso, c'est magnifique. C'est signé Alfred, qui avait eu le Fauve d'Or à Angoulême il y a 5 ans pour Come Prima. Senso est publié chez Delcourt.
On plonge maintenant, Mathieu, dans les années 80 et l'univers de Lovecraft.
Oui, qu'on retrouve notamment, vous savez, dans Stranger Things, je vais y arriver, la série à succès de Netflix, ou dans Lovecraft dans les années 20, il a imaginé une histoire dans laquelle un monstre était enfermé dans l'antre de la Terre et appelé au meurtre. C'était le fameux appel de Cthulhu. Et bien dans cette BD qui s'intitule Une année sans Cthulhu, Smolderen et Cléris, les auteurs nous emmènent dans une petite ville du sud-ouest, dans les années 80, où les jeunes trompent l'ennui, vous savez, en jouant à un jeu de rôle inspiré de cet univers de Lovecraft. Alors c'est l'époque des Walkman, des mobilettes, jusqu'à l'arrivée d'une jeune femme d'origine libanaise qui concorde avec l'apparition de pas mal de phénomènes étranges, notamment le massacre d'une famille, un toit qui s'écroule, et c'est le point de départ de ce polar, signé donc Smolderen au scénario, Cléris au dessin.
En fait, on fait une espèce de portrait de la décennie à travers des choses qui nous ont marqué, le jeu de rôle, les faits divers, c'est le journal Libération qui a commencé à faire une rubrique d'effets divers passionnante, les meurtres incroyables, et donc voilà, ça faisait partie de l'image que je me faisais des années 80.
Il y a des clins d'œil aux auteurs de bandes dessinées de l'époque, on retrouve l'univers que Moebius avait créé, puis il y a aussi Alberto Breccia, cet auteur argentin, pour faire avoir une histoire le plus compréhensible pour le lecteur, quoi.
Et pour la petite histoire, Cléris était l'élève de Smolderen il y a quelques années à l'école d'Angoulême. Donc aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Moi, j'aime beaucoup le dessin, très pop, aux couleurs vives, un peu punk des années 80.
Ah oui.
Avant ce livre, ils avaient signé, elle était diabolique. Je vous conseille aussi. Et donc cette BD, Une année sans Cthulhu, c'est chez Dargo.
Mais le punk, c'était pas vif, c'était sombre. Et puis là, par contre, c'est vif. Vous terminez avec un Spirou.
Oui, le deuxième tome de Spirou, L'espoir malgré tout, le Spirou version Émile Bravo. Vous savez qu'en ce moment, il y a plein d'auteurs qui reprennent Spirou. Et donc, il poursuit l'exploration de ce personnage dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Alors cette fois, Spirou rattrape Fantasio in extremis à la gare, car Fantasio s'était fait virer de son journal après un mauvais article. Les deux compères se réfugient à leur domicile et pour survivre, Spirou va avoir une idée, monter un spectacle ambulant de marionnettes. Spirou construit le petit théâtre, Fantasio écrit les textes. C'est parti pour une nouvelle aventure, toujours donc dans la noirceur de cette époque, ce qui n'empêche pas Spirou et Fantasio de garder leur humour. Et puis surtout, le dessin d'Émile Bravo est toujours magnifique. Il se rapproche de la ligne claire d'Hergé. Spirou, l'espoir malgré tout, c'est donc le tome 2 chez Dupuis. Vous n'hésitez pas évidemment au passage à lire ou relire le tome 1.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. Dadjou, vous êtes fan de BD ?
Je lisais beaucoup de BD quand j'étais plus jeune, étant donné que je suis un fan de manga.
Ouais.
Donc quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de BD. Je lisais vraiment beaucoup quand j'étais petit.
Et pourquoi ça vous est tombé des mains ?
Parce que en fait, toujours à cause des mangas, justement. En fait, les mangas, il y a beaucoup plus d'animés qui sont sortis. Donc du coup, j'ai préféré les regarder que de les lire. Donc c'est comme ça que j'ai perdu.
Et j'en profite pour glisser qu'il y a une série de mangas français qui est génial, qui s'appelle Last Man, je ne sais pas si vous avez déjà découvert.
Encore,
et il y a le dernier tome, ça doit être le 12, qui sort ces jours-ci, et c'est la fin de la saga. Donc si vous aimez le manga, allez découvrir le manga français Last Man.
Vous restez avec nous, on va découvrir le nouveau single de Dadjou.
Oui, musique dans Culture Média avec vous. Dadjou, on écoute un extrait de votre deuxième album Poison qui sort aujourd'hui. C'est Ma vie sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Dadjou qui est notre invité ce matin dans Culture Média. On parle évidemment de son deuxième album Poison qui sort aujourd'hui. On va y revenir dans un instant. Juste avant, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour, Philippe, avec Nicolas Caro.
Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour.
Je
ne
vous ai pas salué encore ce matin. On nous a apporté un beau livre, un livre d'histoire.
Ça s'appelle Mes dossiers secrets, crimes, faits divers, espionnage chez Flammarion. Crimes, faits divers et espionnage, ce sont en fait les trois marottes de l'historien Bruno Fulini qui signe le livre. Il est historien mais spécialisé dans les histoires extraordinaires, les histoires de fous. C'est aussi un grand collectionneur. Il glane sans arrêt à droite à gauche des documents, des objets en lien avec donc le crime, les faits divers et l'espionnage. Et ce livre, c'est sa collection, grand format, illustré avec des photos. Et ceci, alors, ce que je vous ai donné là.
Qu'est-ce que c'est alors ?
Ce sont des fiches de police, des lettres, des photos d'époque. Évidemment, ce sont des copies, mais on dirait les vraies comme celle-ci, celle que je vous ai donnée là. Vous le reconnaissez, le monsieur ?
Non, dites.
C'est Landru. Dans le box des accusés.
Ah oui, je connais que son poil.
Le tueur en série arrêté en 1919 et jugé, reconnu coupable et condamné à mort. Vous voyez sur cette photo, il y a quelques mots manuscrits.
Ouais.
Et bien c'est Landru lui-même qui a dédicacé la photo. Pendant le procès, il jouait les vedettes, il signait des autographes, il faisait le malin. Et surtout donc, il y avait des gens assez dingues pour demander un autographe à l'un des pires tueurs de l'histoire de France. Et puisqu'on en parle, regardez ça, c'est fou aussi, c'est le carnet de ronde du gardien de la paix Victor Prévost. Ça date de 1875. C'est un policier donc qui note chaque jour les petits délits qu'il remarque, le chien sans collier qui traîne, un tel a été arrêté pour vagabondage, etc. Bruno Fulini a acheté ce carnet chez un bouquiniste. Le vendeur lui a vanté l'intérêt historique du document. C'est vrai qu'on se balade dans le Paris de la fin du 19e, c'est marrant.
Ouais.
Mais ce nom, Victor Prévost, disait quelque chose à Bruno Fulini. Alors il achète le carnet, il rentre chez lui et il vérifie. Eh bien, c'est bien ce qu'il pensait. Je le laisse vous raconter la suite.
J'étais évidemment très heureux d'avoir mis la main sur un carnet de ronde de gardien de la paix, mais vraiment, ce nom de Victor Prévost me trottait dans la tête. Je savais que je l'avais vu quelque part. J'avais déjà lu quelque chose là-dessus, donc je me jette sur le rayon criminologie qui occupe quand même pas mal de place dans ma bibliothèque. Et bon sang, mais c'est bien sûr Victor Prévost. Ça n'est pas n'importe quel gardien de la paix. C'était le gardien de la paix assassin, agent de police le jour, mais tueur féroce la nuit. Il sera condamné à mort et guillotiné en 1880.
Ah oui, c'est à moi de vous demander si c'est un policier serial killer.
Et ben exactement. Et ce qui est fou, c'est que dans ce carnet, il y a quelques jours laissés en blanc. Il n'y a rien noté ces jours-là. Et pour cause, ce sont les jours de ses propres meurtres. Il n'y a que des histoires extraordinaires dans ce livre, toujours appuyées sur des documents, comme cette photo d'une bonne sœur dans un tribunal avec la cornette. Elle s'appelle Sœur Candide. Elle récoltait des fonds pour une bonne œuvre qui servait à soigner les enfants atteints de tuberculose. C'est gentil,
ouais.
Oui, mais elle a été accusée d'avoir détourné 5 millions sur les 25 millions collectés. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée au tribunal et condamnée. Il y a une quarantaine d'histoires comme celle-là. C'est illustré à chaque fois, donc c'est
superbe. Ah, je confirme, c'est absolument magnifique au feuilletage, c'est magnifique, on a envie tous de l'avoir, en tout cas moi. Mes dossiers secrets chez Flammarion de Bunet, de Bruno Fulini. Merci beaucoup Nicolas Caro. Vous êtes grand lecteur ou pas du tout d'Adjou?
Comme je l'ai dit un peu plus avant, mais là de temps en temps, comme je prends beaucoup l'avion,
ouais.
De temps en temps, ouais.
Vous lisez quoi en ce moment?
Je relis les classiques de Maupassant.
C'est pas vrai,
ouais.
Le Horla, des choses comme ça.
Exactement.
Magnifique. Je m'attendais pas à parler de Maupassant maintenant à l'instant, mais j'en suis absolument enchanté. Et c'est toujours intéressant de casser les images. Vous restez avec nous.
Yes.
D'Adjou avec nous.
Oui, dernière partie de Culture Média dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Deuxième album Poison qui sort aujourd'hui pour D'Adjou, qui est notre invité, Philippe Vandel.
Et pour vous situer, pour qui ne le connaîtrait pas et ne vous connaîtrait pas, votre frère, c'est Maître Gims.
Exactement.
Il a entendu l'album?
Ouais, bien sûr, il a entendu l'album, il a donné ses critiques, ses remarques et...
Tiens, j'aimerais bien savoir, c'était quoi ses critiques de début?
Bah, il a tout détesté en fait. Je rigole, non. Il m'a beaucoup conseillé, parce que j'ai fait énormément de sons pour choisir tous mes titres. J'ai dû en faire peut-être plus de 200.
Oh là là.
Et sur les 200, il en a écouté plus de la moitié, tu vois.
Mm-hmm.
Et à chaque fois, il me disait, ouais, ça te ressemble plus, ça c'est plus toi. Ça, moi, je suis pas trop fan. Parfois, et je préfère qu'il soit comme ça. Il dit ça, je suis pas trop fan. Mais ça, c'est quelque chose que les gens, ils vont vraiment aimer. Mais je suis pas vraiment fan de ce style de musique. Et tout le temps, il me conseille sur ça. Et le conseil qui revient le plus souvent, c'est ne rentre pas dans. Il faut faire ça. Rentre dans. J'ai envie de faire ça. Je le fais. Tu vois.
Ah bah tiens, j'ai envie de dire que vous serez à Marseille au Dôme le 7 mars, Dijon, Nantes, Tours, Toulouse, Rennes, Caen, Lille, Bruxelles, Épernay, Rouen, c'est la tournée, Luxembourg, Nancy, Montpellier. Votre album Poison s'est sorti aujourd'hui, tout à fait autre chose. Vous avez monté une association, elle s'appelle Give Back.
Ouais.
C'est quoi le but de l'association?
Ben en fait, Give Back, c'est une association que j'ai montée avec l'aide de ma mère aussi, qui consiste en fait à récolter un maximum de fonds pour subvenir aux besoins des femmes, des enfants et même des bébés violés au Congo. Et on en parle pas assez, mais je voulais vraiment mettre le doigt dessus parce que le nombre de viols par année au Congo il est considérable et c'est on appelle même le Congo la capitale du viol carrément.
Pourquoi?
Parce que à cause de l'instabilité du pays, il y a eu plein de cas comme ça justement.
C'est parce que c'est utilisé comme une arme de guerre ou c'est parce que c'est une particularité cet endroit-là?
Non, c'est.
Ou est-ce qu'au contraire c'est presque, si j'ose dire, réfléchi?
Non, c'est après je suis pas dans la tête de ces gens-là donc je pourrais pas dire que c'est réfléchi ou pas. C'est juste que disons qu'en temps de guerre, chacun a une mentalité qui change et chacun agit de son propre chef. Quand il y a pas de règles, bah tout le monde fait sa règle. Et donc ça on en arrive au viol. Et ces femmes-là n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Et je travaille avec Denis Mukwege qui est le prix Nobel de la paix.
L'homme qui reconstruit les femmes.
Exactement.
Chirurgien.
Exactement. Qui est congolais aussi. Et qui a justement reconstruit un nombre incalculable de femmes, mais malgré ça, gratuitement, mais malgré ça, il manque de fonds, il manque de personnel, il manque il a pas assez de matériel pour pouvoir gérer toute cette crise. Donc moi, là où je viens apporter ma pierre à l'édifice, c'est mettre ma notoriété en avant pour en parler déjà, pour dire il y a un problème là-bas, et surtout pour pouvoir récolter un maximum de fonds pour pouvoir l'aider. Quoi.
Votre maman, elle vient du Congo, c'est pour ça que vous disiez qu'elle n'avait pas de papier.
Ouais.
Vous allez jouer, vous avez déjà joué là-bas, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Et vous y retournez quand, vous le savez?
Je vais y retourner, pas pour un concert, mais je vais y retourner, je pense, décembre ou janvier, je vais y retourner justement pour rencontrer Denis Mukwege.
L'association s'appelle Give Back, il y a un site particulier où il suffit de taper sur Google.
Givebackcharity.fr.
Hasard de l'actualité, D'Adjou, il y a deux grosses sorties disques aujourd'hui, il y a le vôtre et il y a cet album. Je vois à votre sourire que vous avez reconnu, c'est...
Ouais, Céline Dion. Je l'ai pris l'album.
Ah, vous l'avez pris ?
Ouais, bien sûr, je suis un fan de Céline Dion.
C'est ça, j'en revenais pas. Vous avez été bercé à Céline Dion. Qu'est-ce qui vous plaît chez Céline Dion ? Parce qu'on a l'impression que c'est deux univers, le vôtre et le sien, totalement opposés. Qu'est-ce qui vous plaît ?
Pour moi, honnêtement, c'est une des 3-4 meilleures chanteuses du monde, en fait. Elle a une voix exceptionnelle, elle a des textes vraiment clairs, nets, précis et super beaux, poétiques. Et elle a une classe, cette femme, c'est incroyable jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, j'aimerais vraiment, vraiment rencontrer cette femme un jour.
D'accord, vous connaissez Michel Drucker ?
De nom.
Parce qu'en général, quand on veut rencontrer Céline Dion, il faut passer par Michel Drucker. Et je sais qu'il nous écoute. Alors Michel, écoute, je te dis, essaie d'inviter Dadju dans ton émission.
Pour un des concerts de Céline Dion à Paris, il faut que vous alliez chanter avec elle.
Même si je peux assister à un de ses concerts, ce serait déjà super.
Même une répète, il prend. Merci beaucoup Dadju. L'album s'appelle Poison, ça sort aujourd'hui. Et la billetterie ouverte pour le Parc des Princes, ça sera le 7 juin. Et un truc de dingue, le premier chiffre qu'on avait en 30 minutes, 5000 places avaient déjà été vendues. Juste pour situer, l'Olympia ne contient pas 5000 places. Donc le type remplit un Olympia en 27 minutes. Merci. Ça, c'est Dadju. Culture Média, on peut rester avec cette musique pour l'annoncer. On se retrouvera lundi avec Ara Prikian, le numéro 2 de TF1. Très rare dans les médias. Et l'humoriste, je ne vais pas dire qu'on l'entend partout, mais on est ravis qu'il soit là. Alex Vizorek, également très rare à sa manière. Je vous dis à lundi. Merci beaucoup, Dadju.
Merci
Mathieu Charrier. D'être venu nous voir et merci Céline Dacosta. Bon week-end. Bon week-end à tous et toutes.
C'était Philippe Vandel. Dans un instant, Anne Romanoff arrive avec toute sa bande et ses invités aujourd'hui, Annie Dupéré et Éric Lévy.